Alors, nous allons commencer. Je vais me présenter. Moi, je m'appelle Sophie Marcoux. Je travaille avec le Bureau de recrutement et d'admission. J'ai peut-être rencontré quelques-uns de vous sur quand on va faire les rencontres dans les cégeps. On se promène toute l'année là pour aller essayer de répondre aux questions et puis d'informer les cégepiens à propos de les admissions et aussi un peu de tout sur les programmes à l'Université McGill. Aujourd'hui, notre session se comporte pas mal sur l'admission, un peu comment ça fonctionne à McGill. Alors, je vais essayer de faire ça le plus clair possible. Bien sûr, vous avez aussi ici sur le campus toutes les ressources disponibles à vous. Les agents d'admission sont ici, les services étudiants, toutes les facultés. Donc, c'est très bien de, si vous avez des questions qui vont être un peu plus détaillées, d'aller rencontrer les gens. Et aussi, bien, pour les gens à la maison qui sont à l'Internet, enchantés. Et si jamais vous avez des questions, on a toujours aussi le point service, que ça s'appelle un bureau où vous pouvez appeler et écrire aussi. Ça nous fera un plaisir de répondre à vos questions. Alors, on commence sans plus tarder. Aujourd'hui, comme j'ai expliqué un peu, ça va être un peu les admissions, comment ça fonctionne. Et je sais, là, avec les années d'expérience en allant rencontrer les jeunes, et puis les parents aussi, que des fois, il y a des questions un peu sur comment ça fonctionne à McGill, des fois si aussi le fait que ça soit peut-être anglophone. Alors, juste pour essayer d'expliquer, de mettre ça là, le plus simple possible pour que les étudiants comprennent, puis que vous allez voir, c'est pas si différent. Puis une fois qu'on comprend un peu le système, bien, ça va bien, on comprend ça. Moi, je viens aussi de Québec, la ville de Québec. Alors, quand je suis venue à McGill, j'avais jamais étudié en anglais. C'était ma première fois, là, vraiment dans un milieu anglophone. Ça aussi, je suis confortable à parler de ça. Si jamais vous avez des questions ou des craintes par rapport à la langue, là, comment ça se passe, est-ce qu'il y en a beaucoup qui le font, je vais élaborer là-dessus sur ça aussi. Puis, n'ayez pas peur de me poser des questions, là, si vous avez des questions. Alors, les admissions, maintenant, ça se fait pas mal tous en ligne. Il y a un formulaire qu'on peut remplir en ligne. Et puis, les critères d'admission se trouvent un peu à différentes places, mais définitivement, ce guide d'admission est mis en place pour vous. Vous allez voir, on va en parler à travers de la présentation. Il y a une section vraiment là pour les étudiants des cégeps, alors ça vous donne pas mal d'informations. Évidemment, c'est pas très gros, alors c'est le début d'information. Après, vraiment, on vous invite à aller des fois où nous demander des questions ou aller en ligne où est-ce que là, on met vraiment toute l'information. On essaie vraiment d'être le plus transparent possible. Alors, c'est toutes les informations qui sont disponibles pour vous. Alors, ça, c'est vraiment un guide d'admission. Et puis, alors après ça, aujourd'hui aussi, je vais élaborer sur ça. Évidemment, ici, je vous parle un peu peut-être de l'arrière là de McGill en tant que lorsque vous êtes un étudiant, vous voulez appliquer, comment ça fonctionne pour essayer de peut-être se démêler un peu là-dedans. On a beaucoup de programmes et c'est divisé par faculté. Quand moi j'ai dit là, je travaille au bureau de recrutement des admissions, je travaille vraiment pour le bureau, disons, central. Et puis là, nous, on fait les admissions sur un paquet de facultés. On a la liste ici. Et puis, c'est sûr qu'on répond aux questions de toutes les facultés, mais nous, dans le fond, on travaille sur les admissions des facultés que vous voyez. Il y a aussi, si je continue, il y a des facultés qui ont leur propre bureau d'admission, et puis c'est vraiment avec eux qu'il faut s'informer, dans le sens que nous, on va vous donner l'information précise, mais lorsque ça vient vraiment sur des choses très, très détaillées, c'est toujours bien de communiquer avec eux ou même aller les voir aujourd'hui, ils sont ici. C'est un peu là les facultés comme on peut s'imaginer un peu, c'est la... Là, c'est sûr qu'on a toujours gardé, vous allez voir dans la présentation, les titres des facultés et programmes, on essaie de les garder dans le titre original, donc en anglais, parce qu'on trouve des fois, en essayant de traduire les choses, ça peut mêler un peu les choses. Alors ici, là, comme vous voyez, Dentistry, Medicine, Music, Law and Religious Studies, eux, vraiment, ils font leurs propres admissions. Alors, c'est pour ça, des fois, que lorsque vous trouvez, disons, le guide général d'admission, ils vont vous référer, ils vont dire où aller trouver l'information, mais ça ne sera peut-être pas en détail. On va continuer, je vais vous expliquer un peu plus ça en détail. Alors, on continue. Ici, vous allez voir, ça parle des 300 programmes. Je vais vous montrer un peu, c'est vraiment de la page 14 à 16, la liste complète, elle est là, de tous les programmes. c'est le titre du programme, mais vous allez, si on l'a ici, alors le titre, il va être là. Vous allez pouvoir trouver la liste complète. Ça commence toujours un peu, la façon que ça fonctionne, c'est divisé par faculté, comme je disais un peu. Puis dans chaque faculté, où il y a la liste complète de tous les programmes, ou des fois aussi, en dessous de la faculté, il y a des écoles. Ça fait qu'il faut comme penser un peu à tous ces domaines-là qui ont leur propre faculté. Et puis, c'est sûr qu'on vient habitué après l'avoir vu un peu, là, mais en regardant la liste, vous allez comprendre que c'est toujours comme les titres rouges, c'est vraiment les facultés. Et puis, en dessous, vous allez voir la liste des programmes, ou s'il y a certains programmes qui sont en dessous d'une école, bien, ça fait partie aussi de cette faculté-là. Alors, lorsque vous cherchez, souvent, je suis sur... dans les écoles, et puis il y a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir, par exemple, ils disent « Madame, je ne trouve pas la psychologie, je ne vois pas le gros titre, là, psychologie », mais c'est parce que des fois, il faut aller voir en dessous de la faculté. Là, on va voir la liste complète des programmes, et puis vous allez trouver psychologie en dessous de la faculté. Une chose aussi que des fois, les étudiants me disent, aussitôt qu'ils voient le titre « Faculté des arts », je fais une petite parenthèse, là, en anglais, « Faculty of Arts », là, des fois, ils disent, ben non, moi, je ne veux pas faire des arts, mais c'est vraiment, c'est les arts libérales, là, donc c'est les sciences sociales et sciences humaines. Et la liste, elle est là, elle est complète avec tous les programmes. Maintenant, souvent aussi, on parle dans nos programmes de majeurs, de mineurs, de programmes d'honneur, le Honors Group. Ça aussi, des fois, ça peut venir un peu, disons que ça peut être un peu différent de ce que vous êtes habitué. Alors, je vais élaborer un peu sur ça. Je vais essayer de ça rendre ça simple là, pour pouvoir un peu comprendre comment ça fonctionne. Puis comme ça, une fois qu'on le sait, bien, on est capable de faire nos admissions plus simplement. Ici, on donne un peu un exemple. Un étudiant qui aurait voulu faire des sciences puis qui veut faire de la biologie, lui, c'est son programme de choix, là. Bien, nous, chez nous, il irait dans la faculté de sciences. Après, il trouverait le programme là, dans la biologie. Puis ici, on appelle ça sa majeure parce que, dans le fond, ça fait la majorité de ses cours vont être dans ce domaine-là. Mais chez nous, c'est ça, on part du domaine que ça va être la majeure. Et après ça, l'étudiant pourra se prendre d'autres programmes pour combiner, là, pour faire son 3 ans d'études. Mais ça part toujours un peu du regroupement majeur, mineur. Et puis, honneur, je vais y aller encore un peu plus en détail. Si un étudiant choisirait, disons, biologie, c'est son choix qu'il veut... étudier là, en majorité. Après, il aura le choix, la liste, elle est complète aussi, de pouvoir se prendre des mineurs, qu'on appelle. Des mineurs, ça serait des regroupements de cours dans un même domaine, mais à moins grande concentration, donc un plus petit regroupement. Et puis ça, chez nous, on appellerait ça des mineurs. Alors, à la fin de ses études, l'étudiant qui serait, disons, dans la faculté des sciences ou la faculté des arts, aurait une majeure avec des mineurs. Ça peut être aussi 2 majeures. Alors, c'est un peu comme des blocs qu'on place, mais on laisse le choix à l'étudiant de combiner un peu ce qu'il veut lui-même. C'est sûr qu'au début, avec les années d'expérience en rencontrant les étudiants, ça peut devenir un peu mêlant ou en même temps, ils ne sont pas sûrs de tout ce qu'ils veulent faire en partant. Et puis, ça peut aussi... donner des craintes, disons, mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'il faut vraiment, on sait avec quoi on veut partir, donc on connaît la majeure, souvent on sait le domaine qu'on veut étudier. Alors, c'est ça, avec ça qu'on commence. Lorsqu'on fait les admissions, lorsqu'on applique, on applique dans notre majeure. Le reste des choix, il y a des étudiants qui le savent déjà, là, ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, mais sinon, bien, ça peut venir aussi avec le temps. Là. Vous n'êtes pas obligé de tout nous dire en partant qu'est-ce que vous voulez étudier, mais au moins, ça nous prend le point de départ, là, la majeure. Il va avoir aussi, après avoir étudié, disons, dans la majeure, disons, on est accepté, je vais prendre psychologie, vu que c'est ça que moi j'ai étudié, une fois admis dans la majeure en psychologie, puis on commence dans ce domaine-là, si on vient qu'on est on adore ça, puis on veut en faire beaucoup, puis on veut en faire à haut niveau, puis on est bon aussi dans le domaine, alors là, en 2e année, on peut appliquer dans ce qu'on dit le groupe d'honneur. Alors là, notre majeure, dans le fond, devient une honors, mais ça se fait en deuxième année. Il y a quelques programmes que c'est tout de suite en partant qu'on est dans le groupe d'honneur, mais sur les 300, là, je crois qu'il y en a un ou deux. Vraiment, d'habitude, c'est en deuxième année. C'est sur les intérêts puis les notes académiques aussi. Les groupes de honors, dans le fond, la majeure devient plus grosse un peu, donc plus de crédit dans le domaine qu'on étudie. Et puis aussi, souvent, c'est des programmes qui peuvent nous préparer aux études supérieures ou c'est des cours vraiment qui sont réservés à ce groupe-là que ceux dans la majeure ne pourront pas nécessairement prendre. Donc, c'est comme pousser notre domaine plus loin. Alors, vous allez entendre parler de ça beaucoup. Alors, on vous donne un exemple ici. On choisit la faculté quand on commence. Et puis après, on veut voir quel programme. Maintenant, disons qu'on comprend ça un peu déjà en partant. Il faut aussi s'ajuster un petit peu aux facultés. Je vous dis ça, vu que vous êtes ici, puis on en parle. Lorsque vous allez voir, lorsque vous appliquez, il y a des facultés qui fonctionnent. Disons, c'est plus un côté, la façon qu'on a divisé les programmes pour essayer là, de rendre ça plus simple. La faculté de sciences, par exemple, a divisé ses programmes en quatre groupes. Alors, il faut trouver dans quel groupe notre programme est offert. Comme tantôt, j'ai dit biologie, il est dans Biological Biomed Life Science Group. Alors, l'étudiant, dans ce moment-là, lorsqu'il est en ligne et veut choisir son programme, bien, il choisit vraiment le groupe. Et puis, une fois admis dans ce groupe-là, tout dépendamment des critères d'admission, mais là, il peut choisir le programme qu'il veut dans ce groupe-là. Alors, c'est un exemple de comment fonctionne la faculté de sciences. Tout ça, c'est expliqué, puis aussi, c'est beaucoup expliqué en détail en ligne, mais des fois, quand on essaie de le faire, bien, il faut vraiment un peu regarder chaque faculté, mais en parlant, espérons que ça va être plus facile le jour que vous allez en ligne pour le faire. Je vais vous donner un autre exemple. Je ne suis pas sûre. OK, ici, l'exemple 2, on va parler de la faculté de génie, engineering. Alors, vous allez la trouver aussi dans la liste. Pour la faculté de génie, bien, les étudiants, c'est pas, vous allez voir, là, il n'y a pas de groupe. C'est pas divisé par groupe, c'est vraiment les programmes. Alors, l'étudiant qui voudrait faire, disons, génie civil, alors lui, lorsqu'il va appliquer en ligne, il va prendre génie civil. Alors là, on ne parle pas nécessairement beaucoup de majeur ou de mineur. Il y a des options pour les étudiants en deuxième, troisième année de prendre des mineurs, mais ça vient plus tard. Mais là, vraiment, en génie, c'est le génie qu'on veut étudier, on le choisit. Les critères d'admission sont pour ce programme-là. Puis lorsqu'on s'inscrit en ligne, là, on va le voir. Là, on voit le programme qu'on veut prendre et puis on peut le prendre. Je ne sais pas s'ils vous ont donné la fac. OK. Je vais expliquer pour la faculté des arts. Donc, je parlais tantôt, la psychologie. La faculté des arts, c'est peut-être un petit. Bien, c'est tous un peu à leur façon, mais ça suit un peu le même procédé. Mais là, la faculté des arts, vous allez voir, vous allez trouver le titre faculté des arts. Mais des fois, vous allez voir que quand vous venez pour cliquer, disons, sur psychologie ou sociologie, la liste complète de tous les programmes n'est pas nécessairement en ligne. Ça va dire non déclaré. Je le dis ici parce que des fois, les étudiants, ça porte à confusion. Lorsque vous voulez n'importe quel des programmes dans cette faculté-là, c'est un type de critère d'admission. Donc, c'est les mêmes notes, c'est les mêmes prérequis. Alors, il faut appliquer seulement à la faculté. Une fois qu'on est admis, lorsqu'on a les réponses, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on est admis dans le programme qu'on veut dans la faculté. Alors, je voulais faire une parenthèse, juste si vous voyez ça, le non déclaré, vous êtes à la bonne place. Vous, juste une fois admis dans la faculté, vous aurez la chance de choisir le programme que vous voulez. On continue. Alors, j'ai déjà parlé un peu plus de majeur, mineur et honneur, mais je vais peut-être vous montrer un peu ici la définition. Alors, puisque la présentation va être en ligne, vous allez avoir aussi la chance de retourner la voir. Alors, j'ai pensé bien de mettre ça ici, là, pour. C'est ça aussi, c'est notre site Internet, mais comme ça, vous l'aurez à une place. Donc, c'est vraiment. Je parlais justement à une conseillère d'orientation. Ça fait peut-être 2-3 jours, qui m'expliquait que pour elle, son fils a été admis cette année à McGill. Et puis avant, elle était un peu confuse de comment ça fonctionnait, mais maintenant, là, elle a vraiment compris. Puis elle a fait un exemple que j'ai bien aimé. Elle a appelé ça un peu, peut-être qu'ici, dans le fond, nous, on laisse un peu le programme ou le choix de programme. C'est plus un peu comme à la carte. comparé peut-être à autres universités où est-ce que lorsque tu veux, disons, faire la psychologie, c'est comme plus le menu du jour, dans le sens que c'est pas mal plus déterminé pour l'étudiant. Ça lui dit quel cours il va apprendre, quelle option il a, mais tout déjà pré-fait pour lui. Donc, elle a appelé ça comme ça un peu menu du jour à la carte. Donc, nous, on est peut-être plus un peu à la carte. On croit que c'est important pour l'étudiant de pouvoir choisir un peu lui qu'est-ce qu'il veut, toujours avec le même nombre de crédits, le même, je veux dire, par exemple, psychologie, il faut faire partie d'un ordre pour si on veut continuer dans ce domaine-là. Alors, les étudiants, en choisissant la majeure, bien, ils auront la chance de continuer aussi, mais ils vont peut-être les à côté, ça sera un peu plus personnel, lui, le goût de l'étudiant. Donc, au lieu de lui dire quoi faire, il aura le choix peut-être lui de choisir lui-même qu'est-ce qu'il veut étudier avec ça, la psychologie. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne un peu. C'est des blocs qu'on met ensemble. Aussi, c'est sûr que, comme je dis, en sachant de départ quel majeur on veut étudier, bien, c'est le point de départ. Une fois que vous êtes ici, il ne faut pas oublier, là, moi, je parle de ça, peut-être que ça va vous éclairer un peu, mais en même temps, des fois, je vois après des étudiants puis ils me disent « Ah, là, ça m'inquiète un peu parce que, tu sais, c'est beaucoup de choix, disons. On le sait que c'est bien d'avoir des choix, mais des fois, ça peut être un peu difficile. » Il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on est rendu ici, vous avez des conseillers académiques. Tout de suite en partant, là, au mois de septembre, vous rencontrez, aussitôt que vous savez dans quelle faculté vous êtes, dans quel département. Alors là, il y a des gens, il y a des réunions, ils vous montrent vraiment comment ça fonctionne. Puis, ils suivent les étudiants aussi pendant l'année. Alors, on peut pas vraiment se tromper, mais on a quand même le choix de l'indépendance de faire beaucoup de choses nous-mêmes. Mais il faut quand même aussi vérifier avec nos conseillers académiques si tout va bien, là, puis on est sur le bon chemin. Alors, on continue. Un peu plus de détails. Alors, on applique en ligne à cette adresse Internet-là. À partir de la page principale, vous allez la trouver. Là, c'est « Futur étudiant ». Et puis là, ça vous montre où est-ce que vous pouvez remplir le formulaire. Vous avez le choix de deux programmes. Alors, les programmes, c'est pas comme au cégep, là, où est-ce que vous aviez, je pense que vous êtes un petit peu plus restreint dans vos choix ou les possibilités d'appliquer autant que vous voulez. À l'université, chaque université fonctionne à leur façon, mais vous pouvez appliquer à chaque université. Chez nous, en appliquant, vous avez deux choix de programme, deux choix de part égale, dans le sens qu'on vous donne une réponse aux deux. C'est pas premier, deuxième. Là, vous allez avoir encore les options. Si vous avez des réponses positives pour les deux, vous pouvez choisir. Aussi, parenthèse, on a des étudiants qui appliquent à six programmes. Puis on comprend, là, c'est pas quelque chose qui est mal vu, c'est qu'on sait que des fois les étudiants, c'est des bons étudiants ou ils veulent savoir un peu c'est quoi leurs options. Alors, mais il faut remplir un formulaire à chaque deux programmes. C'est la façon que ça fonctionne. Vous allez avoir des réponses pour tous les programmes que vous appliquez. Et puis, c'est aussi là que si vous voulez rester en résidence, vous pouvez nous le dire. On veut une place. Les places sont garanties, donc chaque étudiant qui veut rester en résidence aura une place. Et puis, une fois que c'est envoyé, là, souvent, je vais parler des petites différences plus tard, mais souvent, c'est tout, là, dans le sens que nous, on reçoit les notes du ministère, donc on reçoit la cote de rendement directement, et puis on vous donne des réponses. Une fois que vous êtes comme sur le système que vous avez appliqué, vous avez un code de McGill. Là, ça s'appelle, notre système s'appelle Minerva. Alors, vous pouvez toujours aller voir qu'est-ce qui se passe. Si jamais, là, il nous manque quelque chose je vais vous montrer après, là, il y a des programmes comme l'architecture, il faut envoyer un portfolio. Alors, si jamais on ne l'a pas reçu ou quelque chose se passe, bien, on peut communiquer avec vous aussi sur ce système. Ça va être marqué, il nous manque telle chose. Alors, vous êtes les bienvenus de toujours aller vérifier ça, de changer vos informations, vos adresses sur ce qu'on appelle Minerva. La date limite, c'est le 1er mars, sauf pour les programmes de musique qui est le 15 janvier. Donc, c'est important de se rappeler ça pour les étudiants qui seraient intéressés, puisque c'est pas mal plus tôt que le 1er mars. Alors, ça, c'est le grosso modo. Comme j'ai indiqué, c'est vraiment basé sur le dossier scolaire, là. La raison qu'on reçoit ça du ministère, c'est parce que vous nous donnez la permission, là, en nous donnant votre code permanent. Nous, dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on peut aller chercher vos notes académiques. Il y a quelques exceptions, là, dans le groupe des admissions générales que j'ai discuté tantôt. Le programme d'architecture, comme aussi je viens de mentionner, ça prend un portfolio. C'est expliquer qu'est-ce que c'est le portfolio et la faculté est ici aujourd'hui, le département. Alors, vous pouvez leur parler. Puis, il y a aussi le programme service social où est-ce qu'il faut envoyer d'autres documents. C'est inscrit ici aussi, qu'est-ce qu'il faut envoyer. Donc, c'est sûr qu'au début, tout dépendamment quel programme qu'on veut appliquer, il faut vérifier un peu s'il y a d'autres choses à envoyer. Même si en général, c'est juste les notes, là. Vous voyez ici, c'est des exemples. Puis il y a bien sûr aussi, comme j'ai dit tantôt, les admissions qui se font là par les facultés elles-mêmes, comme médecine dentaire, médecine, droit, j'ai dit musique, et puis sciences religieuses, eux font leurs propres admissions et eux aussi ont des critères autres que juste les notes. Alors, c'est bien pour les étudiants qui sont intéressés. C'est sur le même formulaire en ligne, mais à ce moment-là, après avoir rempli le formulaire puis donné les données générales, ben avec ces facultés-là, il faut vraiment suivre les instructions sur leur site Internet. Il y aura d'autres choses à envoyer, mais c'est très bien expliqué. Je sais qu'on envoie sur Internet souvent, mais c'est un peu aussi une façon d'être sûr que l'information est à jour et correcte, qu'elle est là, égale pour tout le monde. Les choses... brochures ou matériaux en papier se font de moins en moins. Et puis, il y a aussi des chances avec ça que d'une année à l'autre, il y ait des erreurs. Alors, c'est bien de se référer en ligne. Comme j'ai dit aussi, ils sont ici aujourd'hui, ces facultés-là. Et puis, ils vont donner l'information comme je la donne aujourd'hui. Là, vous l'aurez dans votre petit dépliant. Ils sont situés où et à quelle heure. Alors, si vous êtes intéressé, c'est bien d'aller rencontrer ces gens-là. Vous êtes les bienvenus de faire ça. Même chose avec les admissions, comme je parlais des autres programmes. Ils sont ici aujourd'hui, les agents d'admission. Et j'ai vérifié, ils sont sur, c'est 11, là, le chiffre 11, sur la, vous allez voir la petite masse, c'est ce qu'on appelle le Bronfman, le building, c'est sur Sherbrooke et McTavish. Alors, les agents d'admission sont disponibles aujourd'hui pour répondre à vos questions. En tant que critère d'admission, on va parler un peu ici... J'ai de l'information sur les cotères. Alors, on dit que c'est basé sur les notes académiques, les cotères, les fameuses cotères pour les cégepiens, puis pour les étudiants de Marie-de-France. Et cette année-là, c'est vraiment les résultats de bac pour les admissions des programmes là, du bureau d'admission. Alors, ça ressemble à ça un peu, ce qu'on donne comme information sur les critères d'admission en tant que notes académiques de cotères. C'est en ligne, encore une fois, là, sur Futurs étudiants, vous pouvez vous diriger, appliquer, puis ils vont vous dire les exigences. C'est sûr que c'est des notes qu'on donne à titre indicatif, dans le sens que ça, on vous dit l'an dernier qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour vous donner une idée, on est à quel niveau environ. D'une année à l'autre, il peut y avoir des changements, ça dépend vraiment de la demande à chaque année. Moi, ça fait quand même un petit bout que je suis là, puis c'est vrai qu'il y a des variances, c'est sûr, c'est pas énorme, là. Mais on recommande toujours aux étudiants que si vous êtes un ou deux points de ce qu'on donne comme idée là, de cotard, ben c'est bien d'appliquer. Là, on peut pas savoir à chaque année. Aussi, sur le site Internet, on donne un historique, dans le sens qu'on donne les cotards des dernières 5 années. Donc, si vous voulez vérifier c'est quoi la tendance ou faire des études sur ça, vous pouvez. Et puis, c'est ça. Nous, on regarde... je vais prendre la psychologie dans la Faculté des arts, de ce que mon exemple auparavant. On regarde les notes global, donc tout le deck au complet, le général. Donc, ça c'est pas sur chaque cours, mais on vous donne ici la cotère globale. Disons, par exemple, c'était 27,4, le chiffre de la cotère. Et puis, on va vérifier aussi, des fois, tout dépendamment du programme, aussi les cotères de maths et sciences. Si jamais vous allez dans un programme où est-ce que ça prend des sciences, on fait une cotère générale avec ça, puis on vous dit dans quel coin il faut être. Encore une fois, c'est pas chaque cours, mais c'est vraiment tous les cours. Et puis, des fois aussi, on regarde, tout dépendamment du domaine, la cote de langue... La cote de cours de langue de votre cégep. Donc, si vous êtes dans un cégep francophone, on veut voir une certaine note de cotère de base. Si c'est un cégep anglophone, mais là, on regarde l'anglais. Ce qui m'amène, j'imagine, un peu aussi sur la langue. où est-ce que si les étudiants, c'est un peu aussi ici, là, il explique quel étudiant aurait besoin d'un test de langue anglaise, langue seconde. Mais grosso modo, je vous dis c'est où. Alors, vous pouvez regarder, là, il y a un petit tableau. Si vous répondez oui à une des questions, alors vous n'avez pas besoin de produire ce critère d'admission-là. Et puis, en général, disons, les étudiants du Québec, ça dépend des cheminements, évidemment, mais disons, si vous avez fait votre secondaire 5 au Québec et votre cégep, là, peu importe ce cégep francophone ou anglophone, vous n'avez pas à passer de test de langue anglaise, ce qui est souvent le cas. Alors, les étudiants, dans ce temps-là, ils me demandent souvent, ben là, tu sais, mon anglais, des fois, ils me disent le cours qu'ils sont. Il y a des cours au cégep plus avancés que d'autres. Est-ce qu'ils sont obligés d'être dans le plus haut ou le plus bas? Ils me disent si je ne suis pas parfaitement bilingue. En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas de critères d'admission en tant que tel. Et les étudiants, notre taux de réussite et de rétention, ce qui est important aussi. Alors, les étudiants viennent et ils restent. Ils vont bien, ça va bien. Fait que c'est pas un problème. S'il y aurait une problématique, je leur dis toujours aux étudiants pour les conseiller un peu, on aurait peut-être à créer un test d'admission, ou c'est sûr, c'est pas moi qui gère ça, là, c'est probablement plus compliqué que ça. Mais disons, c'est pour expliquer qu'en fin de compte, ça va bien. C'est plus un peu, moi, tu sais, on n'essaie pas de convaincre les gens de venir absolument s'ils ont une crainte sur la langue, puis ça, ils veulent pas déjà en partant. C'est sûr, c'est un choix personnel. Mais en même temps, les étudiants qui sont intéressés, qui ne l'ont jamais fait, mais qui se sentent intéressés par ça, on leur dit toujours, ben c'est pas un problème. C'est sûr qu'au départ, mes premiers cours, c'est quelque chose. Là, quand tu n'as jamais entendu un professeur te donner un cours dans une autre langue, puis c'est pas nécessairement non plus une langue que tu es bilingue. Là, alors, il faut être prêt pour ça. Mais l'affaire qui est géniale, c'est qu'on est un paquet de monde à le faire ensemble. C'est beaucoup, beaucoup. Vous avez un peu aussi des statistiques à la fin qui vous montrent combien de personnes, je suis pas à la bonne page, combien de personnes viennent là, d'un milieu francophone, d'un milieu international. C'était vraiment intéressant à voir comment on était plusieurs personnes à passer à travers ça, comment que vraiment ça crée un système d'entraide, les étudiants entre eux, et aussi, c'est sûr que l'université offre toutes sortes de services, mais aussi les étudiants. C'est sûr que moi, ça fait longtemps là, que j'ai fait mon bac, mais dans ce temps-là, les clubs d'étudiants se regrouperaient entre eux et retranscrivaient le cours là, sur papier, et puis là, on pouvait relire notre cours chez nous. Alors, on fait de ça au début, c'est sûr, parce que ça va vite, disons, c'est ça le problème, c'est que ça va un peu trop vite pour écouter et écrire en même temps, prendre des notes. Alors ça, c'est gérer ça au début, c'est un peu spécial, mais en ayant ça, puis aussi beaucoup l'université vraiment, disons que c'est une culture qui veut aider les étudiants, là, c'est pas le contraire. Souvent, les cours sont filmés, enregistrés. Alors, je ne peux pas vous garantir que c'est tous les cours, mais il y a beaucoup de ça. Même moi, avant, c'est sûr que ce n'était pas filmé, mais ils sont à la bibliothèque, là, les cours enregistrés. Alors, on peut les sortir et les réécouter. On fait de ça, notre première session. On réécoute nos cours, avec les étudiants, là, on relit un peu, on cherche en dictionnaire. C'est juste pour, disons, peut-être traduire notre connaissance qu'on a déjà en français puis apprendre des nouveaux mots anglais. Mais je vous dirais qu'après une session, là, puis c'est pas pour dire que nos notes changent en tant que telles. Si vous êtes des bons étudiants, vous allez le rester, là. Mais c'est sûr qu'il va peut-être avoir un peu plus de travail à faire au début. Mais on vient que, une fois dans le milieu, là, ça va. Mais c'est sûr que parler, des fois aussi, je veux dire, je suis très francophone, quand je parle, j'ai encore un accent. Mais on est entouré d'un paquet de monde qui ont des accents. On a tous des accents. Je veux dire, c'est pas comme si on était les seuls, puis qu'on est différents, là. Il y a vraiment tout le monde, de toutes sortes de places qui viennent. Puis eux aussi ont à s'ajuster à ça. Les professeurs aussi, c'est pas tous des anglophones. Alors, eux aussi ont un accent. On s'ajuste à ça. Alors, c'est intéressant. Comme je vous dis, au début, c'est un petit peu de travail de plus, mais en même temps, après 3 ans ou après votre temps ici, alors c'est fait. À ce moment-là, on a vraiment, on a été assez là, dans un milieu anglophone qu'on peut dire vraiment qu'on est bilingue et ça va bien. Alors, si je peux vous donner un peu un conseil, c'était ça, c'est qu'il faut prendre ça une étape à la fois, il va y avoir du support. Là, je parle des choses que moi, je connais. Il y a aussi un cours de langue anglaise, langue seconde, qui est offert aux étudiants, qui se donne au mois d'août. intensif, là, juste avant de commencer vraiment l'année scolaire au mois de septembre. Il y a plein d'étudiants qui ont fait ça, qui ont adoré aussi. Ça, une fois admis, là, toutes ces informations-là vont vous être offertes. Et puis, vous pouvez choisir. C'est sûr, ça dépend de vos horaires l'été, là. Mais les étudiants que moi, j'ai connus qui l'ont fait, c'est comme s'ils ont eu l'impression que ça les a comme un peu débloqués avant vraiment que leur cours commence. Puis, c'est un cours, la chose le fun aussi, c'est que c'est un cours à crédit. Donc, ça peut remplacer un des cours dans la première session. Parce que ça, c'est un autre exemple. Au lieu de commencer des fois avec 5 cours, ce qui est la norme, c'est ce qu'on dit temps plein, là, c'est 5 cours. Bien là, on peut en prendre 4. On est encore considéré comme temps plein, mais ça nous donne un petit peu plus de temps pour gérer, disons, la transition dans la langue. Et puis, ce cours-là peut être repris, si ce n'était pas le cours de langue seconde là, au début, il peut être repris. On a une session d'automne, une session de printemps et d'été. Donc, il y a plein d'occasions où est-ce que les étudiants peuvent reprendre ce cours-là. Fait que c'est personnel, ça aussi, mais ça peut aider aussi, là, disons, que la première session soit moins chargée, disons. Fait que ça, c'est un peu le grosso modo de la langue. Vous pouvez venir me voir après ou en discuter. Vous allez voir sur le campus aussi, il y a toutes sortes de monde qui vont vous parler aujourd'hui. Un peu sur les bourses, on a des bourses académiques d'entrée, une bourse, disons, de base, une bourse majeure. La bourse de base, lorsque vous appliquez, nous, on reçoit les notes du ministère. Comme j'ai dit, vous êtes automatiquement pris en considération. Et puis, aussi la bourse majeure, c'est important de le dire qu'il faut appliquer pour la bourse majeure. Donc, lorsqu'on applique, vous allez avoir votre code Minerva, comme j'ai dit tantôt. Une fois que vous allez dans le système Minerva, vous allez trouver où appliquer pour la bourse majeure. Elle est renouvelable et puis elle est de 3 à 10 000 $ par année. La date limite est le 7 mars, donc un petit peu plus tard que la date d'admission. Là, vous voyez ici, en tout cas, si vous êtes comme moi, vous allez remarquer que 35,5 de cotaire, c'est quand même un gros chiffre dans les cotaires, là. Alors, c'est minimal, mais en même temps, si on va voir aussi sur le site Internet, puis après avoir jasé avec les dames qui s'occupent de ça ou le bureau qui s'occupe de ça, on recommande vraiment aux bons étudiants là, pour la bourse majeure, parce que la bourse majeure prend en considération aussi des aptitudes hors classe. Si vous êtes dans les trentaines, là, et 30, peut-être 33, 34, 35, ça serait bien d'appliquer parce que d'une année à l'autre, des fois, on ne sait pas s'il y a des fonds qui sont libérés ou qui va appliquer. Alors, on donne la note minimum, parce qu'il ne faut pas non plus s'attendre que si on a cette note-là, c'est garanti de l'avoir. Mais j'aimerais ça, là, encore une fois, faire une parenthèse et dire, si vous êtes des bons étudiants et vous pensez avoir une chance, là, bien, appliquez, même si ce n'est pas 35,5 votre cotaire. Encore une fois, faut en bas de 30, je veux dire, c'est quand même beaucoup de travail. Alors, c'est un choix personnel, mais disons que c'est sûr, c'est quand même des cotaires élevés, mais je vous recommanderais d'appliquer. Vous allez pouvoir trouver plus d'informations. Ils sont ici aussi, aujourd'hui, et en ligne. C'était un peu ça, le grosso modo, de ce que j'avais à vous raconter. Je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si j'aurais oublié peut-être une petite partie que vous aviez des attentes aujourd'hui, que je vous parle de quelque chose. Je vous inviterai à aller au micro puis me poser la question si vous voulez. Ou peut-être si vous me la posez assis, je peux la répéter juste pour être sûre que tout le monde a compris. Puis les amis à la maison aussi peuvent bénéficier de cette question. C'est beau, hein? Ça veut dire Oui, OK, merci. Aussi, oui. Alors, la question est est-ce qu'on peut remettre nos travaux en français? C'est vrai. Des fois, j'ai omis de dire ça. C'est très, très vrai. Tu peux faire tes travaux en français, tes examens en français. Ce qui est, dans le fond, une question que c'est vrai que je me le fais demander souvent. Et c'est vrai. Et puis, c'est à n'importe quel niveau, hein, McGill. Donc, c'est au bac, c'est à la maîtrise, c'est une politique d'université, disons. C'est sûr que si, disons, votre cours est sur une langue spécifique, alors il faut pour le suivre de la langue spécifique, disons. Mais si c'est bon, un cours en anglais, on peut faire ça en français. Je te dirais que oui, puis on encourage les étudiants si ça les aide à le faire. La réalité, moi, j'ai trouvé, ça c'est personnel, là, comme quand j'ai étudié ici, puis ce que j'ai vu à travers les années, ça se fait au début. Les étudiants le font au début, mais souvent, on vient que là, on a comme assimilé plus l'information en anglais. Alors, de le retraduire en français, une fois qu'on l'a assimilé en anglais, ça devient encore plus complexe. Mais au début, définitivement, ça peut être quelque chose qui aide les étudiants. Puis c'est offert, puis c'est une politique globale, là, dans le fond. Oui. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Profitez-en pour aller voir tout le monde. Merci. Merci.